14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La décennie 1680 marque le grand basculement du règne de Louis XIV. C'est le début brillant de la cour à Versailles. Nous sommes au tout début de l'année, février 1680. Et un carrosse est là, tiré par des chevaux vigoureux qui entrent dans un village alsacien qui s'appelle Fegersheim. Il faut dire que l'Alsace a commencé à être française en 1648 seulement, c'est-à-dire trois décennies plus tôt. Le matin même, le véhicule, entouré de toute une belle suite, a quitté Strasbourg. Strasbourg, à l'époque, ville indépendante, si vous voulez. Donc, le carrosse est en train d'entrer sur le territoire du royaume de France. Et pour la princesse qui l'occupe, le franchissement de la frontière a été un point de non-retour. Et pour cause, elle est cette jeune femme, elle est l'élue. Elle est celle qu'on a choisie pour épouser le seul fils légitime de Louis XIV que l'histoire appelle le Grand Dauphin. Elle s'appelle Marie-Anne-Christine Victoire de Bavière. Si vous voulez bien, on l'appellera Marie-Anne. Elle a 19 ans et derrière elle, elle a laissé toute sa culture, ses habitudes, sa famille. Elle a laissé tout ce monde-là à Munich puisqu'elle est née Bavière. C'est pour s'unir au plus beau parti qui soit qu'elle a quitté tout son petit monde. Si tout va bien, un jour, elle sera reine de France, puisqu'elle est en train de devenir la bru du grand roi. Son arrivée dans le royaume est un événement. Pensez bien, ça fait 130 ans que le royaume n'avait pas accueilli de nouvelle dauphine. La dernière, d'ailleurs, a laissé un souvenir un peu mitigé. C'était l'Écossaise Mary Stuart, vous rappelez ça? On peut imaginer l'émotion de Marie-Anne, qui sans doute est assez contente de la situation qu'on lui a trouvée, qui est impatiente sans doute de découvrir son jeune fiancé et qui doit sans doute aussi craindre un peu cette cour de France, la plus prestigieuse du monde, mais aussi la plus dangereuse, hein, pleine de chausse-trappes, pleine d'événements imprévus. Elle devra bientôt se faire une place en tant que deuxième personnage féminin de la cour, juste derrière la reine Marie Thérèse, et surtout, il va falloir qu'elle donne des enfants. Pour l'accueillir, Louis XIV a procédé par étapes, selon la coutume de l'époque. On a d'abord envoyé une délégation, qui est une sorte d'avant-goût de la cour, si on peut dire. On l'a envoyé en Alsace, cette délégation, avec des membres assez intimidants. Il y a la duchesse de Richelieu, qui a été placée à la tête de la maison de la princesse. Il y a le grand prédicateur Bossuet, l'aigle de Meaux. Il y a aussi celle pour laquelle on a exprès créé la charge de seconde dame d'Atour. C'est cette madame de Maintenon, qui n'est marquise que depuis 5 ans et qui est en train de devenir très importante aux yeux de Louis XIV. Elle va devenir très très importante dans les années qui viennent. C'est donc face à ces courtisans entourés d'officiers et de curieux que Marie-Anne va devoir quitter l'abri de son carrosse, paraître au grand jour face à ce qui désormais sera son étrange univers.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À la descente de carrosse, la princesse va essayer de faire bonne figure et elle y arrive bien. Elle s'en tire bien, je dirais même, elle s'en tire mieux que bien, avec des manières dignes, avec des sentiments contenus. Elle a été bien élevée, tout simplement. Hein. Elle a le bon compliment pour les bonnes personnes, elle s'exprime dans un français parfait. On lui a visiblement appris à tenir son rôle de future dauphine. Voici ce que nous dit le Mercure Galant à l'époque. Le Mercure Galant, et je pense qu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre ne m'en voudra pas dire ça, au contraire, le Mercure Galant, c'est un peu le point de vue de l'époque. Elle était aussi instruite de tout ce qui regardait les grands officiers que si elle avait été élevée à la cour de France. Elle a plus fait voir d'esprit dans un seul quart d'heure que d'autres, quoique spirituels, n'en auraient montré en plusieurs années. Madame de Maintenon écrivit aussitôt au roi que le feu de ses yeux et l'esprit qui paraissait dans toutes ses manières étaient des choses que les paroles et la peinture étaient incapables d'exprimer. Bon, on fait un peu un saut de flatterie autour de cette princesse, évidemment. On peut pas lire tout ça au premier degré. On confirme en vérité au roi que l'apparence de la princesse n'est pas son atout, hein, puisque elle a surtout la grâce des manières, n'est-ce pas? Bon, mais elle a un certain éclat et ça supplée en partie. Madame de Caylus, dans ses célèbres souvenirs, prend un petit peu moins de détours que Madame de Maintenon citée par le Mercure Galant. Madame la Dauphine était non seulement laide, mais si choquante, nous dit Madame de Caylus, que Sanguin, envoyé par le roi de Bavière dans les temps qu'on traitait son mariage, ne put s'empêcher de dire au roi au retour « Sire, sauvez le premier coup d'œil ». Vous voyez un peu. Peut-être que c'était la conséquence d'une certaine consanguinité dans la famille de Bavière. Il faut dire que les éléments de son visage ne sont pas très bien disposés, manquent un peu d'homogénéité. Les cheveux châtains, le sourire sont assez beaux, heureusement. Elle a beaucoup d'allure dans sa façon d'être. Mais le front est grand, très grand, le nez mal charpenté. Quant au regard marron, il aurait pu être un atout si les yeux de Marianne ne se tenaient à trop grande distance l'un de l'autre. Comme le dit Pierre-Louis Lancel, qui avec beaucoup d'élégance a essayé de nous donner une idée du physique de la Dauphine. C'est vrai que bon, elle avait un petit strabisme divergent, quoi. Quelques jours plus tard, le roi et le dauphin vont pouvoir par eux-mêmes juger de cette affaire. La première entrevue a lieu à Vitry-le-François. Louis XIV est là, on est en 1680, il est au sommet de sa majesté. Et il lance à Marianne « Madame, c'est mon fils que je vous donne ». À l'époque, on disait « mon fils ». Le jeune dauphin se montre comme souvent un petit peu balourd, mais il a le mérite de ne pas se formaliser du visage de sa promise et l'on va bientôt pouvoir célébrer le mariage. Simone Berthier a écrit un ouvrage connu, Les Reines de France au temps des Bourbons. J'en profite pour signaler que Perrin est en train de rééditer l'ensemble de l'œuvre de Simone Berthier et c'est une chance parce qu'il n'y a pas d'auteur en France, à mon avis, qui sache raconter l'histoire avec autant de précision et d'élégance. Simone Berthier nous dit « Le dauphin à 18 ans n'aurait pas encore eu l'occasion de jeter sa gourme. C'est le roi en personne qui se chargea de l'instruire de tout ce qu'il avait à faire, il lui fit une manière de géographie. » Fin de citation. L'élève, quoique novice, se montra doué, nous assure Simone Berthier. Voilà donc des débuts prometteurs pour la jeune épouse. La cour de France aurait sans doute trouvé la princesse qu'il lui fallait. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas tout à fait aussi simple. Ensemble, les Boréades, conduits par Francis Colperon, interprétaient cette suite de Don Quichotte chez la Duchesse de Bodin de Boismortier.
Vous écoutez Radio Classique.
Bon, alors, je vous ai parlé du physique un petit peu ingrat, il faut bien le dire, de notre Marianne. Il est temps peut-être de vous parler du physique non moins ingrat de celui qu'on surnomme Monseigneur à la cour. Et vous pouvez demander par exemple à Saint-Simon ce qu'il en pense. Alors, dites-vous bien que Saint-Simon décrit le dauphin, le grand dauphin, un peu plus tard que la période qui nous intéresse au physique. D'abord, Monseigneur était plutôt grand que petit, fort gros mais sans être trop entassé, l'air fort haut et fort noble, sans rien de rude, et il aurait eu le visage fort agréable si Monsieur le prince de Conti ne lui avait pas cassé le nez en jouant, étant tous deux enfants. Il était d'un fort beau blond, avait le visage fort rouge et fort plein, et sans aucune physionomie. Vous voyez que Saint-Simon fait un certain usage de l'adverbe « fort ». le portrait moral est encore pire que le portrait physique, si je puis dire. Je cite toujours le méchant petit duc. De caractère, il n'en avait aucun. Du sens assez, sans aucune sorte d'esprit, de la hauteur, de la dignité par nature, par prestance, par imitation du roi, de l'opiniâtreté sans mesure et un tissu de petitesse à ranger qui formait tout le tissu de sa vie, doux par paresse et par une sorte de stupidité, dur au fond, avec un extérieur de bonté qui ne portait que sur des subalternes et sur des valets. Tout ça est à la fois merveilleusement écrit et atrocement décrit. Même si le portrait est un peu excessif, vous voyez bien qu'on a compris tout de suite que ce grand dauphin, malgré sa grandeur, n'a pas du tout l'aura de son père. Et Marie-Anne va pouvoir essayer de l'épauler un peu pour qu'il existe davantage. Le couple princier semble d'ailleurs trouver un équilibre intime. La dauphine s'attire des compliments. On dit qu'elle est très bonne catholique, qu'elle est fine, qu'elle est lettrée, même si certains, c'est vrai, notent une relative raideur et une tendance parfois à un éloignement pour le monde. Elle n'aime pas trop faire des politesses, Marie-Anne Victoire de Bavière, et c'est très ennuyeux lorsqu'on est dans la position si éminente qui est la sienne. Pour l'instant, chacun guette surtout son ventre. Évidemment, est-ce que ce ventre-là va s'arrondir ? Elle en passe par une dure fausse couche, mais enfin, en août 1682, donc après 2 ans à la cour, voilà qu'elle mène une grossesse à terme. Inutile de vous dire que la France, l'Europe entière retiennent leur respiration, et c'est un fils, ont le titre duc de Bourgogne. Désormais donc, le roi a un héritier direct sur 2 générations. Il a son fils, le grand dauphin, et puis le fils de son fils, le duc de Bourgogne. Dans le célèbre journal du marquis de Sourche, on lit ceci: « Quand le roi sortit de la chambre de Madame de la Dauphine, tant de gens se jetèrent à ses pieds qu'il fut assez longtemps sans pouvoir passer. On s'étouffait dans les galeries et dans les appartements pour se montrer à lui, et la canaille, ne voulant pas témoigner moins de joie que les honnêtes gens, cassa par une espèce de fureur toutes les vitres de la surintendance. Les uns frappaient des mains pendant que le roi passait, les autres allumaient des feux dans lesquels ils jetaient tout ce qu'ils rencontraient. » Bref, c'est une fête immense qui apporte beaucoup de satisfaction au roi, à la cour. Et pourtant, lorsqu'on regarde bien la dauphine, on se rend compte qu'il y a quelque chose en elle qui a dû se casser. La naissance a été compliquée, Marie-Anne en est marquée avec cette espèce de vague à l'âme qui désormais ne la quittera plus. Selon un diagnostic qui a été posé par plusieurs auteurs, ce ne serait pas ce que nous appelons nous maintenant le baby blues, hein. Ce serait plutôt carrément une dépression qui, selon les époques, va être plus ou moins visible. Or, avec cette atmosphère malveillante qui règne à la cour de Versailles, on peut dire de Versailles maintenant, puisque la cour s'est installée, ce culte du paraître, tous ces manèges, évidemment, il est difficile de sortir de la dépression quand on a une maladie psychologique sérieuse. Et d'autant plus difficile que l'année suivante, voilà la pression qui grandit sur les épaules de la dauphine, puisqu'à la fin du mois de juillet 1683, la reine Marie-Thérèse vient à mourir. Ce qui veut dire que maintenant, Marie-Anne est le premier personnage féminin de la cour de France, ou ce qu'on pourrait appeler la première dame, d'une certaine façon. Et Louis XIV fait peser sur ses épaules déjà un peu fatiguées une pression considérable. Il attend qu'elle se montre à la hauteur. Dans son dictionnaire Louis XIV, Lucien Belli raconte une anecdote assez célèbre. Un soir où la dauphine, émue par une maladie du roi, rechigne à jouer le jeu de la cour, si je puis dire. Elle ne veut pas se montrer à l'appartement. Louis XIV doit la rappeler à l'ordre pour qu'elle préside les divertissements. Et par là même, il donne sa vision des devoirs princiers. « Madame, je veux qu'il y ait appartement et que vous y dansiez. Nous ne sommes pas comme les particuliers. Nous nous devons tout entiers au public. » Cette phrase de Louis XIV est restée célèbre. « Nous nous devons tout entiers au public. » Il y voit, lui, une sorte de sacerdoce que sa famille n'est pas forcée de partager tout de même. Et Marie-Anne fait ce qu'elle peut. Elle essaie de conduire un entourage de bonne tenue, d'animer les réjouissances, mais le roi a du mal à lui laisser cette liberté qu'elle aimerait avoir tout de même. Il lui dénie toute velléité d'autonomie. Dès qu'elle empiète un peu sur le terrain politique, il la rabroue assez vertement. Bref, elle a du mal à suivre le rythme de la cour, cette pauvre dauphine, avec en plus des grossesses qui s'enchaînent. Après la venue au monde du petit duc d'Anjou à la fin de 1683, alors le fils aîné, le duc de Bourgogne, sera le père du futur roi Louis XV, et celui qui vient de naître, là, le duc d'Anjou, il sera un jour le roi d'Espagne, Philippe V, dont descend l'actuelle maison d'Espagne. Et puis, il y a des fausses couches qui vont éprouver beaucoup la pauvre dauphine avec un mari qui s'est lassé d'elle. Il faut bien le dire. Déjà, il n'avait pas que des qualités, le grand dauphin, mais il s'est lancé maintenant dans une espèce de relation extra-conjugale avec une demoiselle d'honneur en plus de la dauphine. Bon, on a connu ça dans toute l'histoire de, dans toute l'histoire moderne en France, mais la dauphine finit par faire intervenir le roi pour qu'on chasse cette mademoiselle Chouin sans résultat. Il y a une question qui se pose. Est-ce que la princesse a les ressources nécessaires pour affronter la vie tellement exposée et tellement difficile à laquelle on l'a condamnée. Petit extrait de la Passacaille d'Assis et Galatée de Jean-Baptiste Lully. L'orchestre français des jeunes baroques était sous la direction de Christophe Rousset.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au milieu de toute cette adversité, il y a une personne qui écoute la dauphine, qui la réconforte. Elle s'appelle Barbara Bessola. Et le problème, c'est qu'elle est venue avec elle de Bavière et que les deux femmes ont tendance à s'exprimer souvent en allemand. Donc on ne comprend pas ce qu'elles disent, vous imaginez. Je cite Madame de Caylus. Le roi, par une condescendance dont il se repentit, avait laissé auprès d'elle une femme de chambre élevée avec elle. Cette fille, sans avoir rien de mauvais, fit beaucoup de mal à sa maîtresse et beaucoup de peine au roi. Elle fut cause que Madame la Dauphine se dégoûta de toute autre conversation et ne s'accoutuma jamais à ce pays-ci. Et la mémorialiste nuance. Peut-être que les bonnes qualités de cette princesse y contribuèrent. Ennemie de la médisance et de la moquerie, elle ne pouvait supporter ni comprendre la raillerie et la malignité du style de la cour, et d'autant moins qu'elle n'en entendait pas les finesses. En effet, j'ai vu les étrangers quelquefois déconcertés par notre ironie continuelle. Certains essaient de parler à la dauphine, Madame de Maintenon va le faire, évidemment. Entre-temps, elle est devenue l'épouse morganatique du roi. Et puis la belle-sœur du roi, qui elle aussi est allemande, Madame Palatine, mais rien n'y fait. Personne ne semble trouver les mots justes et l'on voit Marianne qui se renferme de plus en plus sur elle-même, et qui a du mal à assumer les devoirs dynastiques. Elle essaie de faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire donner des enfants à son mari. En 1686, troisième petit garçon, le duc de Berry. Alors celui-là, il ne deviendra ni le père de roi, ni roi lui-même. Il mourra d'un accident de chasse avant même la mort de son grand-père, ce duc de Berry. Accouchement pénible, dont elle se relève mal. Elle est de plus en plus ébranlée et on s'habitue à la voir, comme l'écrit Saint-Simon, dans une maladie continuelle plus ou moins forte. Je cite encore Simone Berthière. Elle se plaint sans cesse, invoquant le chaud, le froid, la poussière, la pluie. Elle boude les parties que Louis XIV lui propose. Bref, tout le monde la trouve insupportable. On ne la prend pas au sérieux. Elle passe pour une malade imaginaire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et évidemment, comme le souligne Pierre-Louis Lancel, la dauphine se rend bien compte du dédain qui l'entoure. On l'entend dire « Il faudra donc que je meure pour me justifier ». Elle n'en peut plus de la méchanceté de ses courtisans sans cœur. Et évidemment, elle est de plus persuadée que c'est la naissance du petit Berry qui l'a mise dans cet état. C'est sans doute pas aussi simple. Les mois défilent avec de nouvelles crises, de nouvelles fatigues et puis d'autres grossesses qui ne sont pas menées à terme. Mais au début du printemps 1690, vous voyez, ça fait 10 ans qu'elle est dans ce pays-ci, comme on disait à l'époque. Une sorte de gros abcès est mise en évidence dans son ventre. Elle n'a que 29 ans. Vous voyez, je vous parle d'une bien jeune femme encore. Les médecins en retirent plus d'une pinte de liquide de cette grosseur. Et Marianne n'est pas pour autant soulagée. La cour se prépare au pire. Dans la nuit du 19 au 20 avril, nous dit Simone Berthière, Bossuet lui administra l'extrême onction. À son chevet, la famille était réunie, y compris Madame de Maintenon, que Marianne avait fait mander à Saint-Cyr. Louis XIV pleurait abondamment. La moribonde demanda 1000 pardons au roi de son peu de complaisance. Elle voulut baiser sa main, il l'embrassa. On a presque envie de dire qu'il était bien temps. Marie-Anne croit toujours que c'est la naissance de son dernier enfant qui est en train de la conduire au tombeau. Elle se trompe, sans doute. Elle le regarde, ce petit gamin qui a 3 ans. « C'est de bon cœur, » dit-elle en l'embrassant. « C'est de bon cœur, quoique tu me coûtes si cher. » Et le soir même, elle n'est plus. À bien des égards, on pourrait dire que l'existence de cette dauphine de France aura été une trajectoire manquée, celle d'une princesse qui était pleine de promesses, mais qui a été plongée dans un milieu qui ne lui a rien pardonné et qui l'a somme toute conduite au trépas. Elle restera la princesse effacée de Versailles, d'une certaine manière. On se rappelle surtout qu'elle a donné la vie à 3 héritiers potentiels du trône de France et, sans le savoir, du trône d'Espagne, donc, puisqu'elle est après tout la grand-mère des rois d'Espagne.
Vous écoutez Radio Classique.
C'est à lui qu'il est réservé, tenir la sagesse et la gloire. Que dans le temple,
Radio Classique.